En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour. À quoi sert une année polaire? Qu'apprend-on sur notre planète? Sommes-nous maîtres de la nature ou accepte-t-elle tout simplement notre présence? Avec les questions environnementales actuelles, la clôture de cette quatrième année polaire internationale avait une toute autre teneur. Née en 1882, cette mobilisation scientifique est organisée tous les 50 ans. Jusqu'au début du XXIe siècle, les réflexions étaient essentiellement menées par des spécialistes des sciences de la nature et de l'univers. Désormais, les sciences humaines et sociales sont invitées à collaborer. Au cours de chaque année polaire, plusieurs programmes de recherche sont lancés afin de mieux connaître notre planète et son évolution. La quatrième année polaire s'est ainsi ouverte le 1er mars 2007 au Sénat et s'est achevée le 14 et 15 mai 2009 au Sénat et au Collège de France. C'est donc la clôture que vous allez pouvoir écouter au cours de 4 retransmissions. Vous allez écouter dans cette première retransmission l'ouverture du colloque. Elle se déroule au Sénat et le premier thème porte sur l'homme et l'environnement. Pour parler de ce thème, le professeur Jean-Claude Étienne, sénateur et premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et le professeur Philippe Descola, qui occupe la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. Ils reviennent respectivement sur les objectifs d'une année polaire depuis sa création, avant de passer la parole au docteur Bruno Goffet, directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences de l'univers et directeur de recherche au CNRS, pour présenter ses conclusions sur l'exploitation des ressources minières dans l'Arctique.
L'événement est historique. On en mesure la portée. L'année polaire internationale est un événement scientifique suffisamment rare pour qu'on y apporte toute l'importance voulue. Un peu comme la comète de Halley, qu'il n'est donné d'apercevoir, sauf exception, qu'une fois dans une vie, il n'est pas si fréquent d'assister à deux années polaires, ou tout du moins d'y participer activement. En effet, ce n'est que tous les 50 ans, depuis 1882, que cette mobilisation scientifique est organisée. Elle nécessite d'importants moyens logistiques, financiers et humains. Celle de 1958 a été un événement considérable. On en prend la pleine mesure chaque jour. Elle a marqué à l'époque le début des mesures continues de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle a permis l'ouverture des stations permanentes en Antarctique. Enfin, elle a préparé la signature du traité de Washington. L'héritage en est donc largement positif. Je ne doute pas que les réunions de ces jours-ci seront à la mesure de celle de 1958. Et avant que nous fassions le bilan de la quatrième année polaire internationale, je tiens tout particulièrement à saluer et à remercier les deux parrains de cette manifestation. Monsieur Michel Jarreau, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, et Madame Catherine Bréchignac, présidente du Conseil international pour la science et présidente du CNRS. Compte tenu de la densité du moment que nous partageons, l'Office parlementaire et le Collège de France, avec l'appui du bureau de poste du Sénat, ont demandé l'édition d'un timbre à date spécifique, marquant, comme toujours, les grands événements qui rythment la vie de notre nation. Une brochure vous a été distribuée à l'entrée à ce sujet et, comme vous le savez peut-être déjà, ce sont une quarantaine d'administrations postales dans le monde, à travers le monde, qui se sont unies pour éditer, à l'occasion de la clôture de l'année polaire internationale, des timbres consacrés à la protection des pôles afin de sensibiliser le public. Il nous paraissait fondamental de nous associer à cette initiative internationale et de permettre d'en garder un souvenir singulier, spécifique et distingué. Le cachet qui a été réalisé représente un manchot empereur adulte et son petit prenant son élan. Il symbolise le passage de relais, le legs de l'année polaire, la transmission du savoir, mais aussi du patrimoine inestimable que constituent ces espaces vierges et leur biodiversité. Et surtout, le rôle révélateur que représentent ces sites particuliers qui polarisent et qui méritent vraiment le nom de pôle, puisque c'est là qu'on voit se réunir et se stigmatiser bien des aspects, des courants nouveaux qui viennent parfois et souvent, malheureusement, de façon néfaste, traverser le monde contemporain. Vous pourrez vous procurer ce timbre entre 12h et 14h, le créneau horaire est suffisamment limité pour que je me permette de le dire et de le souligner d'entrée de jeu. Vous le faire dédicacer par le graveur Monsieur Yves Beaujard, que je remercie également pour sa collaboration et sa disponibilité. Vous avez également à votre disposition des cartes postales pré-timbré avec la précieuse référence que je viens d'évoquer. Nous vous proposons de les envoyer à au moins une personne de votre choix, tels les lâchers de ballons de notre enfance, en souvenir de cette journée pour porter en écho le caractère que nous souhaitons in memoriam de cette rencontre. Au moment où nous allons faire le bilan de l'année polaire internationale, je voudrais adresser au nom de tous mes collègues parlementaires mes plus sincères félicitations à l'artisan de l'implication de l'Office et du Sénat dans l'année polaire internationale, le sénateur Christian Gaudin. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais à mon tour, comme l'a fait Claude Biro, je voudrais souligner son travail exemplaire dans la manifestation d'aujourd'hui, mais pas seulement dans la manifestation d'aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a en amont et dont la manifestation d'aujourd'hui n'est qu'une partie de l'expression, certes solennelle, mais qui n'en est qu'un aspect les plus emblématiques, mais néanmoins fondamentaux. Le sénateur Gaudin a été en 2002 le rapporteur dans la Haute Assemblée au Sénat de la loi transposant le protocole de Madrid dans le Code de l'environnement. Rien que ça, une paille. Il a été en 2006 le premier parlementaire français à se rendre en Antarctique pour une mission de 5 semaines. Tout à l'heure, le président Biro disait qu'il n'avait pas peur de claquer des dents et des frimas de la température, l'amenant sur les bases françaises et italiennes de Dumont-Durville, Terra Nova Bay et Concordia. Au cours de ce périple, il a notamment effectué le raid chenillé entre Concordia et Cap Prud'homme. Début 2007, il a présenté à l'Office son rapport d'audit de la recherche en milieu polaire française à la veille de l'année polaire internationale. Parmi les nombreux sujets abordés, il mettait en lumière le niveau très élevé de la recherche, de l'implication de la biologie française dans cette affaire. Il proposait de développer les recherches en Arctique et appelait de ses voeux la nomination d'un ambassadeur français pour les pôles Arctique et Antarctique. Cher Christian, tes voeux ont été exaucés. Nous en connaîtrons la pleine saveur et nous en prendrons la pleine mesure à l'occasion de cette journée avec la présence de Michel Rocard. Il a organisé le 1er mars 2007 l'ouverture pour la France de l'année polaire internationale au Sénat. Plusieurs d'entre vous s'en souviennent bien évidemment. En 2008, la ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, l'a nommée parlementaire en mission auprès d'elle pour réfléchir à la participation de la France à un observatoire scientifique international de l'Arctique. Rapport dont les conclusions ont été intégralement suivies. Il a été un acteur important de la conférence internationale qui s'est tenue à Monaco sur le sujet en novembre dernier. Enfin, il a pris l'initiative, grâce à l'ensemble de ses travaux, d'organiser ce colloque en partenariat avec le professeur Bard du Collège de France et avec l'appui du CNRS et de l'Institut polaire français, l'IPV. Vous comprenez pourquoi je me suis attardé, même si j'ai blessé un peu son humilité et sa modestie, pour évoquer devant vous ce parcours dont je n'ai cité que les principales thématiques et les principales étapes. Et ce n'est pas fini. On compte sur lui encore, et encore beaucoup. L'office parlementaire, et Claude Biraud l'a exprimé, salue en lui la cheville ouvrière dans ce domaine de tout ce qui nous vaut d'être réunis maintenant en termes de thématique. Je veux, comme le président Biraud l'a fait à propos de la Haute-Savoie, son département à lui, permettez-moi de parler un peu du mien, pour dire simplement, porter témoignage que dans tous les territoires de notre République, il y a un écho obligé au travail que vous faites, aux recherches que vous conduisez. Il a dit, lui, dans sa Haute-Savoie, comment il pouvait en témoigner. Moi, je dirais, dans la Marne, dans un vignoble qui n'est pas le moins connu à travers le monde, le vignoble de Champagne. Mais quand hier, je leur ai dit que je vous retrouvais, ils m'ont chargé de vous passer un message. Je vous le donne ex abrupto. Dis-leur, m'ont-ils dit, les vignerons, dis-leur comment ça se passe chez nous, en Champagne. Nos parents, nos grands-parents vivaient les vendanges au mois d'octobre, la plupart du temps. Dans les meilleures éventualités, ça avait lieu parfois fin septembre. Aujourd'hui, depuis 20 ans, il n'est pas rare que ça se passe fin août ou début septembre. Dis-leur à tous les savants que tu vas rencontrer demain. Je le dis, mission accomplie. Vous voyez, on a besoin de vous entendre. On a besoin de vous écouter. Ça se traduit, tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, comme élément de réflexion sur le terrain et non des moindres. Il s'agit, permettez-moi de l'évoquer, d'un petit vin local qui n'est pas plus mauvais que les autres, notre champagne. Il a des bulles, les bulles de l'esprit, les bulles de cet esprit qui font que les remarques du terroir se nourrissent précisément des réflexions les plus élevées et qui donnent au vieil adage paysan les pieds dans la glaise, la tête dans les étoiles, toute sa signification. Les étoiles, la tête, la réflexion, c'est vous. Mais sachez que ceux qui ont les pieds dans la glaise, eh ben, ils vous écoutent avec attention. Ils ont besoin de vous entendre. Et c'est pour ça, c'est bien sûr au nom du Sénat que je vous dis merci. Mais c'est aussi au nom de ces gens que j'ai entendus hier, à qui je leur ai dit que je venais vous retrouver ce matin, en leur nom, au nom de tous, au nom de toutes ces populations qui ont besoin de vous, de ce que vous faites, de votre travail, de ce que vous initiez. Comme perspective, je tiens à vous dire merci de votre présence, merci de votre implication. L'homme et l'environnement, plus important des programmes, s'il en est. Descartes présentait l'homme comme maître et possesseur de la nature. Heureusement, aujourd'hui, on a inversé la proposition. L'homme n'est pas le maître de la nature, c'est la nature qui apprend à l'homme. Et l'homme ne sait pas encore tout sur la nature. Mais les pôles sont précisément des révélateurs hors du commun de tous les paramètres qui, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, gouvernent la nature. Un tout petit exemple, je suis chargé d'un rapport sur les pesticides et la santé des hommes, et on peut chercher partout dans le monde, c'est au niveau des pôles qu'on trouve les stigmates les plus accomplis, les plus définis et les plus exprimés des traces de ce qui peut représenter l'élément déterminant dans nos arts de vivre contemporains. Et le révélateur se trouve au niveau des pôles. Ils ne s'appellent pas pôles pour rien. Ils viennent polariser quelque part tout ce qui se passe à la surface du globe. Et en vous entendant, Madame Bréchignac, je me disais que vraiment, on était là dans une dimension qui venait inverser la proposition de Descartes qui, aujourd'hui, prend un sens différent. L'homme n'est pas possesseur de la nature. Il fait partie de la nature. Il n'y a pas de séparation, de divorce entre la vie de l'homme et la vie de la nature. Les deux sont intimement liés. Mais le maître dans cette affaire n'est pas l'homme. L'homme est l'étudiant, l'élève, et la nature est son maître.
À première vue, il semble que distinguer entre nature et société ou nature et culture ne pose guère de difficultés. Ça l'a pendant longtemps été, en tout cas. Et naturel, ce qui se produit indépendamment de l'action humaine, ce qui existe ou ce qui a existé avant l'homme et ce qui existera après lui, et culturel, ce qui est produit par l'action humaine, que ce soit des objets, des idées ou encore des choses qui sont à mi-chemin entre des objets et des idées et que l'on appelle des institutions, une langue, la Constitution française, le système scolaire ou le Sénat, par exemple. Alors je me promène à la campagne, je traverse un bois, je suis dans la nature. Et puis j'entends un avion passer au-dessus de ma tête ou un tracteur à proximité. Ce sont des objets fabriqués, employés par les hommes. Ils relèvent donc de la culture. Ah, pourtant, la distinction n'est pas toujours aussi simple. Dans le cours de ma promenade, je longe une haie vive. Elle est faite de plantes sauvages, des églantiers, des amélanchiers, des noisetiers, et je peux donc dire que c'est une haie naturelle. Par contraste avec la barrière de bois ou la barrière de fil de fer barbelé qui ferme le champ voisin. Mais cette haie, elle a été aménagée, elle a été taillée, elle a été entretenue par les hommes. Et elle est là pour séparer de près selon les limites fixées par le cadastre. Elle est donc, cette haie, aussi un résultat d'une activité technique, c'est-à-dire d'une activité culturelle. Et elle a une fonction légale, c'est-à-dire culturelle aussi. Et la plupart des objets de notre environnement, y compris nous-mêmes, sont dans cette situation intermédiaire. Ils sont à la fois naturels et culturels, comme le sénateur Jean-Claude Étienne l'a rappelé. Malgré ces recouvrements, malgré ces zones d'ombre, nous n'avons pas de doute quand il s'agit de donner des qualités aux objets de notre environnement, selon qu'ils relèvent de la nature ou de la culture. Mon chat et mon chien font partie de la famille, comme on dit, et pourtant, ils n'ont pas les mêmes droits que les membres humains de ma famille. Ils ne sont pas représentés au Sénat, du moins, pas de façon directe, en tout cas, par toutes sortes de médiations interposées, mais pas directement. Ils n'ont pas la sécurité sociale, ils ne sont pas tenus responsables de leurs actes. Bref, entre les humains et les non-humains, il subsiste, malgré tout, une différence importante. Les premiers sont des sujets qui possèdent des droits du fait de leur qualité d'homme, et les seconds sont des objets naturels ou artificiels qui n'ont pas de droit en propre. Et c'est une autre façon, peut-être la plus commune, de distinguer entre la nature et la culture. C'est celle qu'on enseigne à l'école, en tout cas, c'est celle qui paraît relever de l'évidence, du bon sens. Or, l'anthropologie, qui est la science que je pratique, se méfie beaucoup du bon sens. Contrairement à ce que disait Descartes, le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde. Les anthropologues sont plutôt d'accord avec Pascal lorsqu'il dit « vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà ». Des habitudes de vie, des manières de penser qui sont normales en France ne le sont pas en Espagne et inversement. Donc c'est le rôle de l'anthropologie que de faire l'inventaire de ces différences et d'aller donc chez les gens, d'observer leurs coutumes, de leur façon de dire et de partager leur vie quotidienne pendant plusieurs années. Et c'est précisément comme ça que, jeune ethnographe, moi j'ai commencé à mettre en doute l'évidence de ce qui paraissait aller de soi dans la différence entre les humains et les non-humains, entre les êtres qui relèvent de la nature et ceux qui relèvent de la culture. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était une population qui se situe sur la ligne de l'Équateur, en Haute-Amazonie, il y a plus de 30 ans maintenant. J'étais parti étudier des Indiens que le grand public connaît sous le nom de Jivaro, qui s'appellent eux-mêmes Achuar, c'est-à-dire les gens du palmier d'eau. Et ils vivaient dans une forêt tropicale dense, donc un milieu extrêmement différent de ceux de l'Arctique ou de l'Antarctique, sans contact régulier avec le monde extérieur, dispersés dans des grandes maisons aux toits de palme. Et j'ai mis à peu près un an pour comprendre leur langue. À mesure que je comprenais de mieux en mieux ce qu'ils disaient, mon étonnement quant à leur façon de penser n'a pas cessé de croître. Et c'était tout particulièrement le cas lorsqu'ils parlaient de leurs rêves. Tous les matins, bien avant l'aube, les Achuar, parce que c'était leur nom, se réunissaient autour d'un feu pour décider ce qu'ils allaient faire dans la journée. Et en fonction de ce qu'ils avaient rêvé pendant la nuit. Et la plupart du temps, ils interprétaient leurs songes à partir de règles classiques de transformation, du type clé des songes, des règles grammaticales, d'inversion systématique, par exemple. Rêver de pêcher un poisson était, par exemple, un bon signe pour aller à la chasse. Mais d'autres rêves étaient interprétés de façon beaucoup plus étrange. Une fois, par exemple, un Achuar raconta qu'il avait vu en rêve un homme mort récemment, tout ensanglanté, et qu'il lui avait reproché de lui avoir tiré dessus. Or, ce même homme avait blessé la veille, à la chasse, un petit cerf, et l'on dit chez les Achuar que l'âme des morts s'incarne notamment dans les cerfs, raison pour laquelle il est interdit de les chasser. En une autre occasion, c'était un jeune homme qui s'était présenté à un rêveur comme son beau-frère et qui lui avait dit qu'il irait le lendemain avec ses sœurs danser au bord d'un lac. Et de fait, il s'agissait d'un singe, un singe capucin, qui, sous une forme humaine, donnait en rêve des indications de chasse au rêveur. Une autre fois encore, une femme raconte qu'elle avait vu en rêve des fillettes qui se plaignaient qu'on cherchait à les empoisonner. Et l'interprétation qu'elle en donnait était qu'il s'agissait de plants de cacahuètes qui avaient revêtu une apparence humaine pour se plaindre de ce qui les avait semés trop près de buissons de barbasco, c'est le nom qu'on donne dans le nom espagnol qu'on donne à un poison végétal employé pour pêcher. Et lorsque je demandais aux Achuars pourquoi le cerf, le singe capucin ou les cacahuètes se présentaient comme des humains dans leurs rêves, ils me répondaient, surpris par la naïveté de ma question, que la plupart des plantes et des animaux sont des personnes, tout comme eux-mêmes, et que dans les rêves, on peut les voir sans leur costume animal ou végétal, c'est-à-dire comme des humains. Selon les Achuars, en effet, la grande majorité des êtres de la nature possèdent une âme analogue à celle des humains, c'est-à-dire une faculté qui leur permet de penser, de raisonner, d'éprouver des sentiments, de communiquer comme les humains, et surtout qui les conduit à se considérer eux-mêmes, malgré leur forme animale ou végétale, comme des humains. Et c'est pour cela que les Achuars disent que des plantes et des animaux sont des personnes. Leur humanité est morale, c'est-à-dire reposant sur l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, et non physique, c'est-à-dire reposant sur l'apparence qu'ils présentent au regard d'autrui. Et à propos des plantes et des animaux, j'ai employé il y a un instant l'expression « être de la nature ». Mais on voit bien maintenant à quel point, pour les Achuars, une telle expression est dépourvue de sens. Des êtres qui sont conçus comme des personnes, qui sont traités comme des personnes qui ont des pensées, des sentiments, des désirs, des institutions aussi semblables à celles des humains, ne sont plus des êtres naturels. Bref, les Achuars ignorent ces distinctions qui nous semblent évidentes entre les humains et les non-humains, entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture. Mon sens commun n'avait aucun rapport avec leur sens commun. Alors, les Achuars, de ce point de vue-là, n'ont rien d'exceptionnel. Ailleurs, en Amazonie, pour des centaines de tribus parlant des langues différentes, les non-humains sont aussi des personnes qui participent à la vie sociale, avec qui on peut nouer des relations d'alliance, ou être au contraire en compétition. Et cette manière de voir la nature comme identique à la société des hommes n'est pas non plus caractéristique de la seule Amazonie. L'ethnologue Adrian Tanner, un Anglais, rapporte la chose suivante qu'il a observée il y a une trentaine d'années dans un village d'Indiens Cris du nord du Québec. Un vieil homme très respecté était mort peu de temps auparavant et de nombreux parents étaient venus pour ses funérailles. De très jeunes gens, voyant une oie sauvage voler autour du village et se poser régulièrement à proximité de la maison du mort, allèrent chercher un fusil pour essayer de la tuer. Et au moment où ils allaient tirer sur l'oie sauvage, un homme d'âge mûr les en empêcha. « Malheureux, ne voyez-vous pas que c'est l'ami du défunt que vous vous apprêtez à tuer ?» Lui aussi pleure son ami mort. Alors, certains chasseurs cris développent en effet au fil du temps une relation privilégiée avec un animal d'une espèce qui devient, dit-on, comme son ami. C'est aussi une sorte d'ambassadeur auprès des autres membres de l'espèce, qu'il persuade de se rapprocher de son ami chasseur pour qu'il les tire plus facilement. Et à la mort du chasseur, son ami animal est en deuil. Et donc il faut le persuader de ne pas s'en aller, car il entraînerait avec lui tous les autres membres de son espèce et il n'y aurait plus rien à chasser près du village. Donc, tout comme les Indiens d'Amazonie, les Indiens du Grand Nord canadien considèrent la plupart des animaux comme des personnes ayant une âme, dotées de ce fait de bien des qualités humaines, notamment le sens de la solidarité, l'amitié, le respect vis-à-vis des anciens. Et si les animaux diffèrent des hommes, c'est donc uniquement par l'apparence, une simple illusion des sens, puisque les corps des animaux sont pour eux comme des costumes qu'ils portent lorsque les humains sont présents afin de les tromper sur leur véritable nature. Et lorsqu'ils visitent les Indiens en rêve, les animaux se révèlent tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire sous leur forme humaine. Quant au fait que l'ami animal attire les membres de son espèce pour qu'ils soient tués par le chasseur, cela ne porte pas conséquence car les victimes du chasseur se réincarnent aussitôt en un animal de la même espèce. Selon les Cree, les animaux sont pris de compassion pour les chasseurs. Et je vous rappelons que jusqu'à une date relativement récente, le gibier était la source d'alimentation principale des Indiens du Canada. Et c'est donc par générosité qu'ils donnent leur corps aux hommes pour qu'ils se nourrissent. Michel Therrien, qui va parler tout à l'heure des Inuits, pourrait nous raconter mille anecdotes semblables à propos des Inuits. Mais traiter les plantes et les animaux comme des sujets plutôt que comme des objets n'est pas une exclusivité des Indiens des Amériques ou des Inuits. D'une façon générale, d'ailleurs, distinguer entre ce qui est naturel et ce qui est culturel n'a guère préoccupé l'humanité jusqu'à une date très récente. Car pour que l'on puisse parler de nature, il faut que l'homme se soit mis en retrait de l'environnement dans lequel il est plongé, qu'il se sente extérieur et supérieur au monde qui l'entoure. Il pourra alors percevoir ce monde avec la distance nécessaire pour l'appréhender comme un tout, comme un ensemble cohérent, différent de lui et de ses semblables. Et c'est une idée assez bizarre quand on y réfléchit. Comme le dit le poète Fernando Pessoa, on voit bien qu'il y a des montagnes, des vallées, des plaines, qu'il y a des arbres, des fleurs, des herbes, qu'il y a des rivières, des pierres, mais on ne voit pas qu'il y a un tout auquel cela appartient. Car on connaît toujours le monde par ses parties, et non comme un tout. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de se représenter la nature comme un tout, alors elle devient un peu comme une très grande horloge dont on peut chercher à démonter les rouages et à améliorer le fonctionnement. Et alors ce mouvement, il est tardif dans l'histoire de l'humanité et il ne s'est vraiment produit qu'une seule fois, au XVIIe siècle, en Europe, lorsque l'homme, pour reprendre la formule qu'a employée tout à l'heure le sénateur Jean-Claude Étienne, la formule de Descartes, lorsque l'homme s'est rendu comme maître et possesseur de la nature. Alors le résultat a été un extraordinaire développement des sciences et des techniques, mais évidemment aussi, de plus en plus, une exploitation sans frein de la nature. Celle-ci était devenue composée d'objets sans rapport avec les humains, les plantes, les animaux, la terre, l'eau, les roches, de simples ressources dont on pouvait faire usage et tirer profit sans modération. La nature avait perdu son âme et rien n'empêchait plus qu'on la voie simplement comme une source de richesse. Et ce n'est que depuis finalement quelques décennies que nous commençons à mesurer le prix à payer pour cette séparation et pour l'exploitation sans retenue que d'une certaine façon elle a rendu possible avec la pollution croissante des sols, des airs, des eaux, la disparition accélérée de nombreuses espèces. Enfin, je n'insisterai pas, vous connaissez tout cela aussi bien que moi. Ailleurs dans le monde, je l'ai dit, d'autres cultures n'ont pas suivi ce chemin. Elles n'ont pas isolé la nature comme un domaine à part, où tout a une cause qui peut être scientifiquement étudiée, et où tout peut être mis au profit ou au service des hommes. Et ces cultures n'ont pas toujours pour autant évité les désastres écologiques. Il ne faut pas faire d'irénisme. Les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, par exemple, ont fait de grands massacres de bisons et de cerfs de Virginie au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais c'était pour répondre aux besoins d'approvisionnement en viande des colons blancs et non pour assurer leur propre subsistance. Et des cas semblables ont existé ailleurs. Ils se produisent le plus souvent dans des situations de contact entre les civilisations lorsqu'une technologie et un environnement économique nouveau et mal maîtrisé viennent bouleverser des habitudes anciennes. Ainsi en fut-il chez les Indiens des plaines, avec l'irruption des armes à feu et l'apparition d'un marché des biens alimentaires dans une région où ce type de marché était inconnu auparavant. Il faut reconnaître pourtant qu'en maintenant des liens de complicité, de connivence, d'interdépendance avec les habitants non humains du monde, bien des civilisations qu'on a longtemps appelées primitives ont su se préserver de ce pillage irréfléchi de la nature dans lequel les Occidentaux se sont engagés à partir du XIXe siècle. Et peut-être même ces civilisations nous indiquent-elles une voie pour sortir de l'impasse où nous sommes à présent, elles finalement qui n'ont jamais songé que les frontières de l'humanité s'arrêtaient aux portes de l'espèce humaine. Il faut distinguer entre l'humanité comme espèce biologique et l'humanité comme condition. Et ces sociétés, elles n'ont jamais hésité à inviter au cœur de leur vie sociale les plus modestes plantes, les plus insignifiants des animaux. Alors c'est vrai que l'anthropologie n'a pas pour vocation de proposer des modes de vie alternatifs. Il est trompeur de penser que l'on pourrait adopter maintenant dans les pays industrialisés une manière de vivre en accord avec la nature qui pourrait s'inspirer directement de celle que les Indiens d'Amazonie ou les Inuits proposent. Les Atchouars, dont j'ai partagé la vie, ne font pas d'agriculture intensive, ne consomment ni pétrole, ni charbon, ni énergie nucléaire. Leurs besoins sont très limités, leurs déchets sont intégralement recyclables. En somme, nos problèmes ne sont pas les leurs, ou leurs problèmes ne sont pas les nôtres aussi. Par contre, la connaissance que nous avons de tous ces peuples, qui, comme les Atchouars ou les Inuits, ne voient pas leur environnement physique comme quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, nous fournit un moyen à nous de prendre nos distances vis-à-vis du présent pour mieux faire face à l'avenir. Car il est difficile de s'extraire du présent, des habitudes de pensée, des routines quotidiennes, des institutions qui encadrent notre vie et dont on imagine mal pouvoir se passer. Or, l'anthropologie, vous m'excusez de faire un plaidoyer pour ma discipline, nous montre que ce présent qui paraît éternel n'est qu'une façon, parmi des milliers d'autres qui ont été décrites, de vivre la condition humaine. Et de ce fait, même si celle que nous voudrions, cette, la façon de vivre la condition humaine que nous voudrions pour l'avenir n'existe pas encore, nous avons l'espoir, puisque d'autres l'ont fait avant nous, de pouvoir en inventer de nouvelles et peut-être même de meilleures.
Alors, si on regarde une carte mondiale de répartition des ressources minérales connues sur le monde, vous voyez évidemment que ces ressources sont essentiellement localisées dans les régions habitées et accessibles, et que l'Arctique est plutôt dépourvu de ces ressources, soit qu'elles ne sont pas connues, soit qu'elles sont couvertes. Et si on zoome un peu sur cette région et qu'on place sur la limite, vous voyez donc les zones d'exploitation, les zones de reconnaissance de ces ressources arctiques sont très localisées en Norvège, en Europe, le nord des États-Unis et le sud du Canada. Alors maintenant, si on représente sur ce même graphique le déplacement prévu du pergélisol avec le réchauffement climatique, donc avec une vision évidemment très imprécise, 2050-2100, vous voyez que ce pergélisol remonte franchement vers le nord et rejoint et même dépasse la limite des 10 degrés moyens les mois les plus chauds. Donc vous voyez qu'on peut s'attendre à une modification fondamentale des ressources, de la recherche et exploitation des ressources économiques et des ressources naturelles, en particulier les minérales dans l'Arctique, puisque toutes ces zones exploitées par ailleurs vont certainement se déplacer, la géologie étant en effet la même hein, entre le Groenland, la Norvège, le Québec et le Canada. En fait, tout ça, c'était les anciens cratons et ils sont tous à peu près la même. Le Groenland est à peu près la même géologie. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait des exploitations minières tout à fait équivalentes à celles qu'on voit en Norvège. Donc, j'ai choisi pour vous illustrer ces propos de ce que représente une industrie minière dans un milieu fragile, un milieu arctique. J'ai pris le cas de la mine de Ragland, qui est située en territoire inuit, dans la péninsule Ungava, au Nunavik, au Nord-Québec. Et donc vous voyez ici la localisation au-delà à 62 degrés nord de la mine Ragland. Et un encadré qui vous présente donc cette mine dans son désert arctique avec le symbole Inuit au premier plan. Je vais d'abord vous parler des acteurs. Hein, d'abord l'acteur industriel, le groupe industriel, c'est exploité par Xstrata Nickel, qui est un membre d'un groupe international récent qui a été créé en 2001 et dont le siège est ensuite en Suisse et dont les acteurs sont essentiellement européens. Le groupe AXA est un actionnaire de ce groupe international. Cette Xstrata Nickel exploite les deux plus grands gisements de nickel au monde, l'un donc à Ragland et l'autre à Koniambo en Nouvelle-Calédonie, et qui est aussi un de nos territoires. C'est un groupe qui affiche une politique de développement durable avec deux objectifs que vous pourriez juger en apparence contradictoires: offrir aux actionnaires des rendements parmi les meilleurs de l'industrie et en même temps assurer des partenariats éthiques, responsables et ouverts avec les employés, les clients, les actionnaires et les communautés locales. Donc ça, c'est l'acteur industriel. Les acteurs locaux, ce sont les populations autochtones, principalement et uniquement les Inuits, qui représentent 14 communautés, représentées par la société Makivik, qui en assure le développement économique, et l'administration régionale Kativik, ARK, ainsi que la mine à traiter plus spécialement avec deux communautés locales qui représentent 1700 habitants de la ville de Salwit et de Kangjiksujuak. Vous avez sur la carte où elles sont placées. Vous avez la localisation de la mine Ragland entourée en bleu et les deux villages en question qui sont de part et d'autre de cette mine. Ces populations inuites aspirent, et ça confirme ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, à l'indépendance économique, au changement politique et à l'autodétermination, et revendiquent la connaissance et la maîtrise de leur environnement. Et puis en bas, j'ai mis un troisième partenaire, pour l'instant un peu absent, mais qui commence à se réveiller, qui est le gouvernement du Québec, représenté par le ministère des Ressources naturelles et de la faune. Alors, je vais faire un état des lieux. Qu'est-ce que c'est le milieu? Donc, ce sont des roches issues d'une suture océanique archéenne affleurant dans le désert arctique. Archéen, c'est une période de la Terre lointaine, autour de 2,8 milliards d'années. Et vous voyez que le gisement, le potentiel d'exploration fait 70 km de long et que les zones actuellement exploitées sont représentées par les étoiles jaunes. Et vous voyez que c'est une très faible part du domaine. Donc, vous voyez que cette mine et a un potentiel encore très fort dans son développement. Donc vous voyez, c'est des roches, il y a une photo ici des roches archéennes, et en fait aussi caractérisées par une biodiversité réduite et fragile. Vous voyez une image un peu sombre, parce qu'il ne faisait pas très clair, de quelques plantes perdues dans la neige, au milieu de cailloux chassés par le blizzard. Et puis aussi, c'est un lieu de la transhumance de caribous. Et vous savez que dans ces régions-là, les troupeaux de caribous sont extrêmement nombreux, puisqu'on a deux grands troupeaux, environ de 800 000 têtes, l'un migrant vers l'ouest de Longawa et l'autre vers l'est de Longawa et traversant le domaine minier. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour le milieu d'avoir une exploitation minière? D'abord, c'est une usine moderne, assez récente, de 98, de classe mondiale, isolée, complètement isolée, autonome en énergie et en lieu de vie, qui ne rejette rien, sauf du CO2 et de la vapeur d'eau. Vous voyez un plan de l'usine où on voit les bâtiments industriels au nord de l'image et les locaux de vie au sud de l'image. Vous avez une photo ici de l'usine, c'est une très grosse usine. Vous avez en bas une photo des bâtiments d'habitation et l'intérieur contient tout, des gymnases, des cuisines, des salles pour se laver le linge, des salles pour jouer, de la musique et tout ça. C'est donc complètement autonome, c'est une ville entièrement fermé, c'est comme un vaisseau spatial dans un milieu très hostile et en gros on ne peut pas sortir de cette base. Donc aussi, qu'est-ce que ça change pour le milieu? Des infrastructures de transport, le milieu est complètement isolé, il n'y a aucun lien direct par les routes avec les populations inuites. Par contre, il y a donc tout arrive par bateau, donc bateau tout temps, il y a un port avec un brise-glace, une piste d'aéroport avec un avion Boeing 737. Et puis, évidemment, des infrastructures de transport lourdes pour transporter les matériaux. Vous voyez qu'ici, c'est un camion qui transporte 50 tonnes de roches, donc c'est un camion d'environ 70 tonnes. Et puis aussi des autobus pour transporter le personnel sur place. C'est aussi des infrastructures d'exploitation et d'exploration du sol, donc des forages, des excavations, des tunnels, qui sont évidemment extrêmement importants puisque la mine extrait 1,3 million de tonnes de minerais annuels, donc 80% environ en mines souterraines, le reste est en ciel ouvert et d'ailleurs exploité par des sous-traitants inuits. La profondeur maximale des mines est relativement faible, de 300 mètres. La teneur du minerai est environ autour de 3%, et c'est la plus élevée du monde. Les températures sous terre peuvent descendre à moins 30 degrés C, la température de la roche étant à moins 5. Les stériles sont stockés dans des halles gelées, les eaux d'été étant récupérées. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important dans le cadre du changement climatique, puisque c'est le jour où les halles ne gèleront pas, on va se retrouver dans des conditions extrêmement décisives pour l'exploitation de cette mine. Et ça, c'est un enjeu. Donc environ 80% de ce qui est extrait reste sur place dans les halles. Aussi, qu'est-ce que ça change pour les Inuits maintenant ? Donc c'est les découvertes pour les Inuits. C'est les découvertes, il y a environ, vous voyez les chiffres ici, il y a le nombre d'employés. Il y a 710 personnes qui travaillent sur la mine de Raglan, dont 120 Inuits. Il y a 209 entrepreneurs qui agissent, des sous-traitants qui agissent avec la mine, dont une grande partie sont des Inuits. Les horaires de rotation, c'est 3 semaines de travail, 2 semaines de congé, et 2 semaines de travail et 2 semaines de congé pour les Inuits, avec des programmes avantageux de primes et de bonus qui améliorent les rémunérations de base. Un mineur peut gagner jusqu'à 100 kg euros par an. Vous voyez donc des apports financiers considérables pour les populations locales. Et donc ces gens-là découvrent les conditions de travail en milieu industriel, que ce soit les travailleurs eux-mêmes, mais ou leurs familles, parce qu'il y a en fait un très grand problème de compréhension de ce que c'est qu'un milieu industriel par les familles. Donc les familles sont invitées à visiter l'usine. Donc à la fois les conditions de sécurité dans l'usine, mais aussi des activités sociales de l'usine avec des équipes de hockey, par exemple. Et ici, une équipe de hockey qui a participé à une compétition internationale à Montréal qui a pu être créée grâce au soutien de la mine. Et puis aussi, une rencontre avec les travailleurs du monde entier, puisque les travailleurs, les 600 autres travailleurs de la mine viennent de tout le Québec, parfois même de Floride. Et puis ici viennent aussi de Nouvelle-Calédonie, parce que ici vous avez sur cette image une rencontre entre un Kanak et un Inuit. Ici le Kanak, vous le reconnaissez, c'est le plus grand. Et donc vous voyez que c'est ici des impacts incroyables sur les populations Inuites, populations locales. Ensuite, ça a des retombées financières évidentes. Vous voici un graphique qui vous montre les impacts financiers qu'apporte la mine. Alors à la différence de ce que ma collègue a dit tout à l'heure sur ce qui se passe en Russie, ici, il y a des impacts financiers énormes. Il y a sous plus de 3 formes. Les moyens, le matériel et les entreprises qui travaillent pour la société de la mine, les salaires des employés et aussi des redevances payées directement aux communautés inuites, soit à la société de gérant les investissements, la société Nemakivik, soit aux communautés. Et vous voyez donc la progression très forte jusqu'en 2007, sachant qu'en 2008, le programme partage des profits a été beaucoup plus bas. Vous savez ce qui s'est passé en 2008. Et donc, il n'y a eu que 6,8 millions d'euros qui a été distribués aux communautés. Alors, l'utilisation de ces fonds est très diverse. La société Makivik les redistribue dans des infrastructures collectives, alors que les communautés, parfois, les utilisent d'une manière un peu étrange, mais personne ne veut s'en mêler, en redistribuant aux personnes par chèque des moyens avec des sommes de genre 5 000 euros par adulte, 3 000 euros par enfant, ce qui fait que des familles, par exemple en 2007, ont pu toucher 50 000 euros d'un seul coup et donc ont fait des achats qu'on peut penser pas tout à fait utiles. Voilà. Donc ça, vous voyez que donc des retombées, vous voyez que la somme totale investie dans les communautés va en 2007 à près de 120 millions d'euros, avec une part extrêmement importante d'achats préférentiels auprès des communautés inuites, donc des impacts financiers majeurs. Ensuite, qu'est-ce qui va changer pour les Inuits ? C'est la formation. Évidemment, travaillant au sein d'une entreprise, ils sont formés dans cette entreprise, et existe un programme qui s'appelle le projet Tamatumani, qui est une formation complémentaire avec l'idée de former entre 70 et 120 Inuits au management pour faire des cadres qui sont utiles à la fois à l'usine, mais aussi aux sous-traitants. C'est un programme doté de 50 millions d'euros, partagé entre le Québec, les communautés locales et la mine. La mine mettant 36 millions de dollars dans le programme. C'est un dont je vous l'ai dit, ça nous représente, chacun participe au programme, et les formateurs, les conseillers en dotation, le personnel d'encadrement peuvent être inuits en partie pour former leurs collègues. Donc vous voyez, évidemment, nécessairement un impact très fort sur la vision que peuvent avoir ces gens-là de leur milieu. Alors, qu'est-ce que ça change pour la politique, maintenant ? Alors, pour pouvoir s'installer dans les territoires inuits, à cause des différentes choses qui ont été exprimées avant, il y a eu une entente entre le minier, Xstrata, et les communautés locales, et il s'appelle l'entente Ragland, qui est un accord secret qui filtre un petit peu entre l'entreprise et les communautés inuites sur, entre autres, mais on ne connaît pas tout ce qui est là-dedans, des études réglementaires environnementales et complémentaires, maximiser l'emploi des bénéficiaires inuits, ça veut dire c'est une préférence directe d'employer des inuits ou de sous-traitants, promouvoir l'entreprise, ce que je viens de dire, l'utilisation des entreprises inuites, faire un partage des profits dont je vous ai parlé à l'instant, et puis un comité Ragland qui résout les problèmes et qui a des rencontres une fois tous les 3 mois avec l'usine. Et en particulier, sont discutés dans cette entente les tonnages que sont utilisés par la mine, sachant que si la mine dépasse 1,3 million de tonnes de minerais extraits, l'entente doit être renégociée. Les conséquences canadiennes, au niveau canadien, c'est que tous les groupes aboriginaux canadiens ont voulu faire des ententes avec les industriels dans le secteur. Ensuite, par exemple, pour l'environnement, l'entente a imposé un comité d'experts externes, de scientifiques mondiaux, donnant leur avis sur comment traiter les déchets et l'interprétation du changement climatique, mener les études sur les caribous, contrôler les zéros effluents du concentrateur. Le concentrateur, c'est la machine qui trie le minerai, qui enrichit le nickel et qui permet de rejeter un minerai pauvre en nickel. Et puis, les problèmes de biodiversité, mais aussi des réglementations extrêmement fortes sur l'abattage des animaux, le commerce et le nourrissement de ces animaux sauvages, où tout est interdit aux gens de la mine de soit abattre les animaux, même s'ils sont complètement dangereux, faire du commerce, nourrir et aussi importer de la drogue ou d'alcool. Donc la réglementation drogue et alcool extrêmement lourde dans ce système. Donc, et actuellement, il y a 120 ententes au Québec et qui sont assez intéressant, c'est que ces ententes ne sont pas du tout, répondent pas à la loi canadienne ni québécoise. Donc ça, c'est un vrai point. Et ni encore plus aux lois du commerce international, puisque c'est des ententes privilégiées favorisant les populations locales. Donc des modifications politiques certainement énormes. Bon, alors qu'est-ce que ça change pour le politique ? Alors ce que vous ne voyez pas, c'est pour le Québec. Donc le Québec s'est engagé un plan Nord pour le développement du Québec, le développement durable du Nord-Québec, et avec une participation forte avec les différentes tribus, les Cris, les Inuits, les Innus vivant dans ces régions-là. Et puis pour l'industriel minier, de ce que je me suis aperçu en visitant cette mine, c'est que l'industriel minier commence à entrevoir que de prendre en compte le développement durable, l'intérêt des populations locales, peut être un avantage concurrentiel vis-à-vis à d'autres compétiteurs dans ce monde, dans le monde de la mine, ce qui est quand même assez nouveau dans ce milieu. Alors, finalement, le changement climatique apporte un changement fondamental dans l'exploitation des ressources minérales dans le domaine arctique, puisqu'on va se retrouver dans un système classique, ouvert, et où tous les groupes nationaux, internationaux, vont se jeter pour exploiter les ressources qui sont extrêmement importantes. Donc les régions arctiques et subarctiques deviennent un enjeu majeur pour le prochain siècle. C'est à la fois une potentialité unique de développement harmonieux du Grand Nord, mais c'est une source potentielle d'incompréhension, de conflits et de décisions catastrophiques. Mes collègues en ont parlé, puisque c'est des choses qui vraiment déséquilibrent le milieu. Donc, pour essayer de comprendre, mesurer, observer ce qui se passe, anticiper, adapter, contrôler, décider, avec juste apporter, il faut apporter des informations sûres et compréhensibles à l'égard des différents acteurs qui interviennent, les acteurs politiques, les acteurs qui soient nationaux, régionaux, les acteurs économiques, les acteurs administratifs, les acteurs du droit et de la santé, les scientifiques et les citoyens. Et cela aux échelles régionales, provinciales, nationales et internationales, hein, puisque tout est lié, hein, ce qui se passe dans l'Arctique canadien peut évidemment influencer ce qui se passe au Groenland, et puis influencer aussi ce qui se passe dans des communautés lointaines, comme en Nouvelle-Calédonie, avec les Kanaks, qui finalement se rendent compte, commencent à connaître tout ce qui se passe dans d'autres régions de milieux fragiles. Et c'est pour ça que l'INSU, avec sa partenaire, propose de construire, avec le CNRS, les observatoires de l'Arctique. Ce sujet de la mine et du développement économique est un sujet de ces observatoires, avec un enjeu de ces observatoires. Et a donc été signé la semaine dernière un protocole d'entente entre l'INSU, CNRS, l'Université Laval, comprenant une partie du réseau SEN-SAON, on a parlé tout à l'heure, coordonné avec l'Observatoire de la mine en Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec l'IRD et l'INE du CNRS, le ministère des Ressources naturelles, de la faune et du Québec, les gouvernements autochtones des provinces de Nouvelle-Calédonie, avec en particulier ici une image, donc les deux signataires principaux, Dominique Lecléo et le président de l'Université Laval, et puis le réseau SILA, SILA voulant dire, c'est un mot inuit, qui veut dire climat, mais aussi plutôt ambiance du milieu. C'est un mot assez large. Et en fait, qui est le support du réseau SEN-SAON, dont les stations s'étalent depuis Québec, le nord du Québec, mais aussi jusqu'aux péninsules les plus nordiques du Canada, avec l'île de Ward Hunt, qui est au 83 degrés nord, et qui est à la fois un réseau qui va permettre à la fois de l'observation atmosphérique, de la biodiversité, des évolutions sociales, mais aussi des évolutions économiques. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'écouter les professeurs Jean-Claude Etienne et Philippe Descola, ainsi que le docteur Bruno Goffet dans le cadre du thème « Sur l'homme et l'environnement » abordé lors de la clôture de la 4e année polaire internationale. Vous pouvez également écouter les 3 autres retransmissions qui traitent pour leur part du rôle que peuvent jouer les gouvernances politiques et scientifiques dans les pôles, les évolutions à court et long terme sur le climat, les glaces et les océans, et le changement global et la biodiversité polaire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.